Tuer ce requin ne sera pas une chose facile. Le poisson n'est pas un poisson comme les autres. Ce requin est un mangeur d'hommes. S'il plante ses dents et qu'il referme ses mâchoires, vous êtes foutus.
Oh, arrêtez! Il suffit de lui mettre une balle dans la tête et c'est lui qui est foutu. Pas vrai?
Le requin-tigre que nous recherchons est un maniaque.
You're gonna need a bigger podcast.
Bienvenue à la plage, bienvenue sur Shark Parade, votre podcast tout entier dédié à la plus grande gloire des films de requins tueurs. Je suis le professeur Rico, et nous nous retrouvons dans ce troisième épisode pour évoquer deux films que nous avons tirés au sort la fois précédente. Et deux films en apparence très différents, puisque nous avons d'un côté une petite production aux limites du Z avec L'Empire des requins de chez The Asylum, et de l'autre une production à 25 millions de dollars avec des stars comme Halle Berry ou Olivier Martinez avec Dark Tide. Mais deux films qui ont encore un point commun secret, puisque tous les deux ont été tournés au Cap, en Afrique du Sud. Deux films donc que nous allons visionner, analyser, de manière à suivre notre grande œuvre de reclassement du patrimoine squalo-cinématographique mondial. Pour ce faire, nous utiliserons une fiche d'étude des compétences, pointant l'originalité, l'histoire, les personnages, l'ambiance, la réalisation et la qualité des requins présents dans chacun des films, de manière à les reclasser dans une des cinq catégories suivantes: à fuir, nul, routinier, bon, incontournable. Commençons sans plus tarder par le premier des deux, Empire of the Shark, l'Empire des requins, sorti l'année dernière. Alors, prêt à jeter à l'eau ?
In a world underwater, a warlord rules with an army of sharks. Taking everything in their path. The one who can save them needs saving herself. Empire of the Sharks.
L'Empire des requins, Empire of the Sharks, je vous avais déjà parlé lors de la précédente émission de la chaîne Sci-Fi et de son insatiable appétit pour les films de grosses bébêtes. Ils ont notamment lancé ces dernières années le Shark Week, un événement estival autour des films de requins qui les amène à commander toujours plus de productions squalesques au concept toujours plus farfelu pour attirer le chaland. Et en la matière, un de leurs sous-traitants s'est mis à écraser le marché en sortant de la série B fauchée de façon résolument industrielle. Il s'agit de The Asylum. Alors The Asylum, c'est un nom que nous allons revoir souvent dès qu'on va parler requins, tant c'est devenu leur produit d'appel et leur fonds de commerce. Alors, faisons un petit point rapide sur cette société avant d'aborder le film proprement dit. Elle a été créée en 1997 par deux anciens cadres des studios hollywoodiens, David Michael Latt et David Rimawi, et elle a fait sa réputation en exploitant le filon des mockbusters. Pour ce faire, il suffit de surveiller quelles seront les futures grosses sorties en termes de blockbusters de l'été et de tourner à la va-vite des petits films qui repompent sans vergogne les concepts, les titres, les visuels de ces futures grosses productions. Et on joue à fond sur la confusion pour nous vendre du Transmorpher, du Atlantic Rim, du Alien vs Hunter, du The Terminators, du Almighty Thor. Bref, des copies pas chères. Alors c'est pas un concept nouveau, hein, les Italiens dans les années 80, ou même quelqu'un comme Roger Corman a largement versé là-dedans, mais ici c'est véritablement conçu de façon industrielle pour alimenter les plateformes VOD et les bacs à soldes des supermarchés. Et quand je parle d'industrialisation, j'exagère à peine, ils ont inondé le marché en appliquant la méthode de l'organisation scientifique du travail au cinéma. Ils utilisent le taylorisme, en sortant un film toutes les 3 semaines, avec une conception qui excède rarement 4 mois. C'est bien simple, en 2017, ils sont sortis 17 films. Le Fordisme, avec le travail à la chaîne des auteurs et des techniciens qui sont réduits à des simples postes d'ouvriers spécialisés qui refont toujours les mêmes films, ce qui entraîne une baisse des coûts et donc des films achetables pas chers par toutes les chaînes câblées, et donc aussi une standardisation puisque tous leurs films se ressemblent. Un bon concept, décliné de la façon la plus plate possible, avec une avalanche d'effets spéciaux mal finalisés de manière à donner l'impression qu'il se passe quelque chose à l'écran. L'apothéose de ce système, c'est la série Sharknado qui va connaître un succès surprise, devenir leur tête de gondole et être déclinée à 5 reprises, avec même le concept d'une série télé qui est en préparation. Et ça marche. The Asylum, c'est une espèce de mini-corporation dont on connaît finalement assez peu les responsables, qui s'est élevée au sommet de la chaîne alimentaire de la série B, et a remplacé les vieux artisans roublards des années 80-90 comme Roger Corman ou Charles Band, qui fournissaient les vidéoclubs. D'autant qu'ils n'ont pas fait l'erreur que d'autres sociétés comme la Canon ou New Image, qui avaient débuté aussi dans ce genre de créneau, ont fait, qui est de vouloir monter en gamme pour devenir des marques respectables, quitte parfois à risquer la faillite. Non, non, ils ont un cœur de métier, c'est le film fauché et racoleur, et ils s'y tiennent, préférant plutôt se lancer dans d'autres créneaux à forte valeur ajoutée. Le film familial, le film religieux, et même ces dernières années, le film d'animation. Après tout, la société se targue de ne jamais avoir produit le moindre film à perte.
I'm not here to collect tribute. I am here under orders of Ian Fenn.
On his command, I will release our army of sharks who will destroy your city.
And this is a rightful action by the authority of Ian Fenn, as he does have
dominion of all those living on the water. So nothing you can say or do will stop me.
Empire of the Sharks est donc l'un des bébés les plus récents de chez The Asylum. Dans un futur post-apocalyptique où le dérèglement climatique a entraîné la montée des océans jusqu'à recouvrir 98% de la planète, les quelques survivants restants se sont réfugiés dans des bidonvilles flottants. Ils doivent faire face à un tyran sanguinaire qui utilise son armée de requins contrôlée par une étrange technologie pour exploiter les populations. On le sent, les responsables ont vu Mad Max Fury Road, ainsi que la 7ème saison de Walking Dead, et se sont dit qu'il y avait sûrement quelque chose à faire en mixant ça avec leur cœur de métier, c'est-à-dire les requins. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, nous voici devant un mockbuster de Waterworld, avec Kevin Costner. Un film qui, je vous le rappelle, a été l'un des plus gros bits des années 90. Bon, avec le temps, et une attraction à succès dans le parc Universal Studios de Los Angeles, le film a fini par atteindre un petit statut nostalgique auprès des amateurs. Mais quand même, de là à vouloir le refaire 25 ans après... Bon, l'histoire est d'une simplicité assez confondante, d'autant que les auteurs bouffent à pas mal de râteliers et piochent allègrement dans tout un tas de films pour composer leur scénario. Un peu de Mad Max, un peu de Waterworld, et puis une grosse louche de 7 samouraïs, 7 mercenaires, avec un héros qui va aller recruter un par un des gros bras pittoresques pour aller se friter avec le méchant. Un méchant très méchant, avec sa petite armée de sbires inexpressifs, et surtout sa technologie assez étrange, ce Power Glove qui lui donne la capacité de donner des ordres à un petit bataillon de requins. Des requins équipés d'un capteur vert qui clignote, pour montrer qu'ils sont sous contrôle. Alors un méchant qui est interprété par un vétéran, John Savage. Vous connaissez son visage, vous connaissez son nom. Il a une filmographie impressionnante, entre Voyage au bout de l'enfer, Le Parrain 3, Hair de Milos Forman, Salvador de Riverstone. Bon, là, il se contente de faire acte de présence plutôt qu'autre chose. Bon, faut bien avouer qu'avec Arrête John Savage, ces derniers temps, il tourne jusqu'à des trucs par an à la télé ou au ciné pour maintenir son train de vie. Surtout depuis qu'il s'est mis à la colle avec Blanca Blanco, une starlette de 30 ans, sa cadette. Bon, enfin, tout ça ne nous regarde pas. Enfin bref, le méchant et son âme d'année ricanante, qui se tape d'ailleurs le gros du boulot parce que John Savage n'en a pas grand-chose à faire, pressure les populations jusqu'au moment où il tombe sur Willow, une belle jeune femme qui semble avoir un pouvoir télépathique de contrôle sur les requins. Il s'empresse donc de la faire prisonnier et de l'enchaîner à une espèce de roue de la douleur piquée à Conan le Barbare ou la folie des grandeurs, je sais pas.
Mr. Scream, sir, we need more water.
Double your tribute by tomorrow.
We have exhausted all the resources nearby. It will take time to gather more, but without water... It's impossible.
So what you're saying is, this amount of water isn't enough for the population you have here?
Exactly, sir.
Oh. Hmm. By the authority of the warlord Ian Fenn, I will reduce your population by 10%. Take 5-6 healthy ones. Girls.
C'est quand même un monde post-apocalyptique où les coiffeurs et les esthéticiennes ont survécu au vu du look très propre des acteurs. Pour filmer ça, The Asylum a confié le bébé à Mark Atkins, un de leurs plus fidèles employés du mois catégorie scénariste-réalisateur tout-terrain. Et je pense que le budget n'a pas dû atteindre le million de dollars. J'aurai l'occasion sûrement de reparler de Mark Atkins sur ce podcast parce qu'il a beaucoup œuvré dans le film de requin, Beach Shark, l'attaque de requin à 6 têtes. Et c'est un réalisateur emblématique de ces mercenaires du cinéma qui tournent vite, pas très bien, mais en tenant le budget, ce qui est une qualité première pour des faiseurs comme chez The Asylum. Un petit mot rapide sur la musique que vous entendez derrière moi, elle est à l'image du film assez fonctionnelle, standardisée. C'est une composition de Heather Schmidt, une compositrice canadienne avec un bon background classique, mais qui doit se contenter d'instruments reconstitués au synthé, ce qui n'aide pas à donner un esprit d'envolée lyrique. En dernier détail, le film a eu le droit à un doublage français lors de sa diffusion l'année dernière sur Sci-Fi lors du Sharkathon, qui est un petit peu le Shark Week de la chaîne chez nous, sous le titre donc L'Empire des requins. Hélas, pas de DVD ni de VOD accessible, donc j'ai dû me contenter des extraits en anglais pour cette chronique.
Can you stop this?
I don't know. There's so many.
You have to do something.
I can't. To destroy the amulet, the source of my power is gone.
That's not true.
I don't even know how or what I did. I can't do it.
The power resides within you. The amulet resonated with your power. It was never the source. You are a shark caller. You must believe in yourself.
Bien maintenant, essayons un petit peu de voir les compétences squalographiques de l'Empire des requins. Originalité, insuffisamment acquis. Alors, malgré une bonne idée de départ, en fait, quand on creuse un peu, on s'aperçoit que ce film est la préquelle de Planet of the Sharks, un premier Waterworld-like tourné au même endroit en Afrique du Sud l'année d'avant par Mark Atkins, avec quasiment la même équipe. Alors est-ce que c'est une volonté de rentabiliser les décors et les lieux de tournage, ou de créer une nouvelle franchise après Sharknado, voire de montrer à Sci-Fi qu'il pouvait faire une série Waterworld, ce qui a été longtemps un projet caressé par la chaîne. En tout cas, ça tue un peu l'originalité du concept d'Empire of the Shark. Histoire, insuffisamment acquis. Force de bouffer à tous les râteliers, eh bien le film est complètement prévisible et se laisse suivre sans déplaisir, mais sans vif intérêt non plus. Personnage. Insuffisamment acquis. Alors John Savage, lui, il est en mode pilotage automatique. Le reste du casting, essentiellement composé de jeunes premiers sud-africains, joue sans grand entrain. Ambiance en cours d'acquisition. Faut reconnaître, il y a du rythme, il se passe des choses à l'écran. Bon, c'est pas hyper passionnant, mais c'est fonctionnel. Réalisation insuffisamment acquis. Mark Atkins doit tenir le budget, il doit tenir les délais et rendre une copie la plus propre possible, la plus impersonnelle possible, la plus passe-partout possible. C'est le cas ici. Requin en cours d'acquisition. The Asylum commence à avoir un certain savoir-faire en matière de requins en images de synthèse. Faut bien avouer qu'ils ont des banques de données informatiques que j'aurais soupçonne de recycler d'un film à l'autre, tant on a l'impression de voir toujours les mêmes. Et puis en plus, ils jouent généralement la quantité sur la qualité, c'est-à-dire que leurs requins sont pas toujours bien faits, mais ils en mettent tellement que ça fait effet carpet bombing, ça finit par atteindre son objectif. Appréciation finale, 8, auquel j'ajoute un demi-point pour le concept, parce que j'aime bien Waterworld. Ce qui nous fait un total de 8,5, un film routinier, exactement le genre de film qu'on laisse en fond en faisant autre chose, et puis on y jette un petit coup d'œil de temps en temps quand le son augmente et qu'il se passe quelque chose à l'écran. Bref, petite production, pas la plus honteuse que The Asylum a été capable de faire, mais pas franchement non plus un film que l'on peut recommander malgré son affiche rutilante. Bon, au moins le film a pas dû coûter cher, hein, et a certainement pas dû atteindre le million de dollars. Ce qui n'est pas le cas du film suivant, qui lui a royalement eu droit à 25 millions de dollars de budget. J'espère que pour ce prix-là, Dark Tide va nous proposer quelque chose d'un petit peu plus excitant.
My father once told me to be careful of the things you love most in the world. Because if you're not careful, that very thing can also destroy you.
From the director of Blue Crush and Into the Blue.
Where are we going?
Shark Alley.
And there's big ones down there, right?
20 footers, be safe out there.
You sure about this?
Let's give him his money's worth.
Let's do it.
Academy Award winner Halle Berry. Olivier Martinez.
It's gonna be fine.
Hold. your breath.
Come on, man, what's going on?
Stop!
Dark Tide.
Dark Tide, avec Halle Berry et Olivier Martinez, un film de John Stockwell sorti en 2012. 25 millions de dollars de budget et 432 000 dollars de recettes. Ouf, le gadin. Ah, autant dire qu'après ça, alors qu'il avait été annoncé chez nous, il n'est pas sorti en France. Et pour avoir une version francophone, il va falloir se rabattre sur la version québécoise, qui est assez gratinée, vous allez l'entendre aux différents extraits que j'ai pu récupérer sur le DVD américain. Alors la particularité de ce film par rapport à tous ceux que nous avons traités jusqu'à présent sur le podcast, c'est que c'est un film qui se veut sérieux, c'est un film qui se veut un thriller psychologique avec des requins traités sérieusement et non pas juste le Monster Flicks de la semaine. Le problème essentiel, c'est qu'à force de se prendre au sérieux et de vouloir la jouer psychologie, ambiance, tension, ennui, endormissement, en fait, vous l'avez compris, c'est un film qui va s'avérer globalement soporifique, à peine sauvé par les 20 dernières minutes où il se passe enfin quelque chose. Est-ce que tout est acheté ? Probablement que non, parce que finalement, ça part quand même d'une bonne intention. Halle Berry incarne Kat Mathison, une américaine qui est partie en Afrique du Sud pour nager au milieu des requins blancs. C'est sa spécialité, elle est un peu celle qui murmure à l'oreille des requins. Les requins n'ont pas d'oreille, mais bon, vous comprenez le concept.
La seule façon de comprendre réellement les requins est de sortir de la cage et de nager avec eux. Je recherche le requin curieux, celui qui est calme et qui ne fait que passer. Mais si je remarque que le requin a sorti ses pectoraux, ça veut dire qu'il ne m'accepte pas dans son espace vital. Donc, dans ce cas-là, j'essaie de nager sous le requin pour être en position dominante. Pour nager avec un requin, il faut penser comme un requin. C'est pour ça que je fais en sorte d'être toute petite, parce que plus je suis petite, plus j'ai de chances d'attirer beaucoup de requins là où je suis.
Accompagnée par son petit ami français, Jeff, incarné par Olivier Martinez, elle se filme au milieu de ces requins, en train de les taquiner, de nager avec eux, de leur taper sur le museau, de les attraper par l'aileron, bref, de prodigieusement les faire chier, pour son propre plaisir personnel. C'est mesquin, c'est bas, et fatalement, les requins, à un moment, ils ont beau être bonhommes, ils ont beau être gentils et placides, faut quand même pas trop les pousser dans les cours. Évidemment, à force d'enquiquiner les requins, le drame se produit, le mentor et père de substitution de Kate est attaqué par un grand blanc et dévoré sous ses yeux. Et là c'est le choc, le trauma, les années de psychothérapie, les cauchemars où on se réveille au milieu des draps trempés. Un peu comme quand vous avez vu Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal. Essayez de vous rappeler. Non, n'essayez pas de vous rappeler. Bref, Kate est au fond du trou. Elle ne veut plus nager au milieu des requins. Elle ne veut plus voir un requin. Tout juste accepte-t-elle de conduire quelques touristes au milieu des phoques. Jusqu'au moment où Jeff vient la voir avec une proposition qu'elle ne peut pas refuser. Celle d'accompagner un milliardaire anglais déplaisant et son fils pour nager au milieu des requins, pour sortir de la cage et replonger au milieu des grands blancs. Bien sûr, elle refuse, elle ne veut pas. Mais les huissiers sont à la porte, ils peuvent saisir son bateau. Les employés n'ont pas été payés depuis des semaines. Elle doit faire face à ses responsabilités. Alors, va-t-elle pouvoir enfin affronter ses peurs ? Vous le saurez au bout 1h20 de balade en mer.
Qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi tu t'énerves ? Je comprends pas. C'est quoi le problème ?
C'était une mauvaise idée.
C'est déjà arrivé de faire sortir des gens de la cage. Ce type est un trou de cul, mais il a signé une décharge.
Parce que tu lui as affirmé qu'il ferait une chose que moi-même, j'étais pas sûr de pouvoir faire.
Mais bien sûr que tu peux le faire. C'est en toi. Et moi, je préférais avoir ça plutôt qu'être derrière la caméra.
Oui, parce que moi, je suis l'ami des requins.
Ouais.
Les gens dans mon trouble. Arrête.
Arrête quoi?
Arrête de te servir de moi pour te faire de l'argent.
Alors dit comme ça, je vous ai peut-être un peu survendu le film. Soyons honnêtes, il se passe pas grand-chose. Et donc, on suit mollement les aventures de Halle Berry et d'Olivier Martinez sur un bateau. jusqu'aux 20 dernières minutes où enfin il commence un petit peu à y avoir un peu d'action avec la tempête, les requins qui commencent à tourner autour du bateau et de la cage, et évidemment les choses qui ne se passent pas comme prévu. On peut pas vraiment dire non plus que ce soit un très mauvais film. John Stockwell, il grenouille à Hollywood depuis les années 80, il a commencé comme acteur, scénariste, réalisateur depuis la fin des années 90. Sa grande spécialité, ce sont les films sous-marins. Il a d'ailleurs fait deux productions d'action thriller se passant en grande partie sous l'eau, Blue Crush et Bleu d'Enfer, deux films qui ont comme point commun d'avoir pas mal de scènes sous-marines, qui semblent être un petit peu la grande passion de John Stockwell. Il a fait aussi pas mal de séries B+, entre 10 et 20 millions de dollars, souvent avec un casting un petit peu connu. Pas des productions totalement fauchées donc. Et Dark Tide s'inscrit un petit peu dans cette veine, 25 millions de dollars, et Halle Berry au casting. Alors Halle Berry, il faut pas oublier, au début des années 2010, ça reste un grand nom, hein, même si sa carrière a eu des hauts et des bas. Elle a été oscarisée pour À l'ombre de la haine, elle a été James Bond Girl, on en meurt un autre jour, qui est pas forcément le meilleur de la série. Elle a été Storm dans la série des X-Men. Elle a aussi été Catwoman, et elle a participé à Opération Espadon, aux côtés de John Travolta, avec une coupe de cheveux invraisemblable. Enfin bref, Halle Berry, moi je l'aime bien. Alors comptez pas sur moi pour la critiquer. Surtout qu'elle est en bikini une bonne partie du film. Après, le reste du casting fait son taf honnêtement. Hein. Olivier Martinez, notamment, ça n'a jamais été un monstre de charisme, mais il a une belle gueule, un peu de présence, donc ça passe assez bien. En fait, l'une des faiblesses du film provient de ce qui devait être au départ un des points forts. C'est-à-dire qu'on a filmé les requins en milieu naturel sur Shark Alley, un haut lieu à côté du Cap où on trouve effectivement un gros regroupement de requins blancs. Alors, on voit sur le making-of les acteurs en interaction justement avec ces requins et l'équipe technique qui passe des semaines à les filmer en milieu naturel. Et le problème, c'est que ces images qui font souvent documentaire animalier sont un peu raccordées aux chausse-pieds à l'histoire principale. Et c'est ce qui, au final, tue très largement la sensation de danger et finalement l'intérêt qu'on peut avoir sur ce film qui s'avère terriblement plan-plan. La bande originale du compositeur Mark Seyfried est plutôt intéressante parce qu'elle ne cherche pas tant à rendre des effets mélodiques qu'à créer une ambiance. Pour cela, elle va utiliser des voix de la tradition sud-africaine et en même temps tout un travail de sound design pour donner un effet un petit peu claustrophobique comme si on était à grande profondeur. C'est un petit peu dans la veine des musiques de Hans Zimmer, c'est-à-dire il s'agit plus de créer une ambiance que des thèmes mémorables.
On va vraiment aller dans l'eau ?
Ouais. Vous voulez voir des requins, non ? Vous savez, ils vont pas sauter sur le bateau.
Il y en a de très gros ici, c'est ça ?
6 mètres de long. Allez ! Je croyais que vous vouliez tester votre courage, non ? Alors allez-y, voyons ce que vous avez dans le ventre. Allez-y, mettez votre combine. On y va.
Alors faisons un petit peu le point sur les compétences chorégraphiques de Dark Tide. Originalité en cours d'acquisition, c'est plutôt sympathique de vouloir refaire un film un peu sérieux avec des requins et de dépasser le simple cadre du film de monstres pour essayer de donner une véritable ambiance thriller psychologique. Histoire, insuffisamment acquis. Alors ça se gâte parce que le scénar est vraiment cousu de fil blanc avec des personnages qui sont trop souvent caricaturaux et une action qu'on va venir à des kilomètres à l'avance. Dès les 10 premières minutes du film, on sait déjà comment tout ça va se terminer. Personnages, en cours d'acquisition. Bon, les comédiens sont pas mauvais, mais les personnages ont tellement une psychologie en carton que c'est difficile de ne pas sombrer dans la caricature. Ambiance, non acquis. Je suis peut-être un petit peu dur, mais j'ai dû reprendre ce film 3 fois pour pouvoir le terminer tellement je m'ennuyais devant ce que je voyais à l'écran. Réalisation, en cours d'acquisition. Si visiblement John Stockwell a une certaine expérience pour ce qui est de filmer les grands fonds, c'est pas tout à fait la même chose dès qu'il est sur la terre ferme. C'est extrêmement plan-plan, filmé façon téléfilm, avec un minimum d'imagination. C'est un petit peu dommage parce qu'il y a malgré tout des belles images sous-marines. Requin, insuffisamment acquis. Et c'est là tout le problème du film, c'est qu'il y a eu un énorme travail pour essayer de tourner au milieu des requins avec les acteurs, et pourtant ça ne rend jamais vraiment bien à l'écran. On a toujours l'impression quand même que requin et personnage évoluent dans deux mondes différents. Appréciation finale, 9, auquel je rajoute un demi-point parce qu'il a libéré en bikini. Petit point mondain, c'est sur le tournage de ce film que Halle Berry et Olivier Martinez se sont véritablement rencontrés et se sont mis ensemble puisque ils se sont mariés peu de temps après et ont eu un enfant. Et même s'ils se sont séparés depuis, au moins ils ont passé des bons moments, en tout cas des meilleurs moments que moi, devant ce film. Avec un total un peu cruel de 9,5 sur 20, Dark Tide s'avère être un film routinier, pas véritablement passionnant, et on se demande vraiment où sont partis les 25 millions de dollars. Voilà, nous terminons cet épisode avec une petite série Z d'un côté et un gros film de l'autre, qui s'avère finalement tout aussi routinier l'un que l'autre. Alors, il est temps de tirer au sort les deux prochains films. Farfouillons dans la boîte à requins. Alors, Les Mâchoires Infernales, William Griff, 1976. Ouh, on attaque les films de patrimoine. Et allez, on refarfouille pour le deuxième film. Alors, on retombe dans la production sci-fi, bien Z, avec Ghost Shark, un film de 2013 et un requin fantôme. Eh bien, ça promet tout ça. Où peut-on se retrouver ? Eh bien, sur le podcast Nanarland, sur le label Riviera Ferraille, ou bien sur Twitter, @TheUltimateRico, pour avoir des nouvelles de ce podcast et de diverses petites choses autour de Nanarland. On se retrouve normalement dans 15 jours. D'ici là, profitez bien de l'été et de ce chaud soleil. Vous pouvez retourner vous baigner !